l'actualité, la culture, l'histoire, l'économie. Découvrez la Corée sous tous les angles sur KBS World Radio.
Séoul, au jour le jour. Bonjour et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Séoul au jour le jour. L'élection partielle s'est achevée hier. Depuis l'aménagement de la loi électorale en 2019, les jeunes de 18 ans peuvent voter à partir des élections législatives de l'année dernière. Hier était donc la deuxième élection à laquelle certains lycéens en terminale pouvaient participer. Selon l'agence de presse Newsis, les adolescents de 18 ans étaient satisfaits de pouvoir enfin exprimer leur suffrage. Or, certains ont déploré que les adultes ne se montraient pas très favorables à leur participation à la vie politique. Selon Jung, une fille de 18 ans, elle était excitée par l'idée d'aller aux urnes pour la première fois dans sa vie. Mais ses parents l'ont réprimandée en disant qu'elle devait se concentrer sur ses études. Depuis quelques jours, ils l'ont empêchée de lire des articles et de regarder tout ce qui est lié à l'élection. Elle a regretté de devoir se rendre à l'institut scolaire privé à cause de ses parents. Sang, une autre adolescente, quant à elle, a raconté que son enseignant de lycée l'a félicité pour son premier vote. Toutefois, ses parents lui ont dit de réviser plutôt que de s'intéresser au scrutin. Ils ne l'ont même pas autorisé à lire les brochures sur les promesses électorales livrées chez elle. D'autres adultes incitent les jeunes électeurs à suivre leurs opinions en les considérant comme des enfants. Une adolescente a témoigné que sa grand-mère n'arrêtait pas de lui montrer des vidéos politiques et lui a affirmé que si elle votait pour certains candidats, le pays allait devenir communiste. Elle se sentait en colère parce qu'elle savait très bien à qui elle veut donner sa voix et pourquoi. Cha, un autre lycéen, a expliqué que sa grand-mère, qui vit à la campagne, l'a appelé tout à coup et lui a dit de ne pas voter pour certains partis politiques. Selon lui, les jeunes sont capables de faire un jugement raisonnable, mais les adultes semblent l'ignorer. D'après Che Jun-ho, directeur de l'association Solidarité des collégiens et lycéens unis par les bougies, la société sud-coréenne ne voit pas les adolescents comme des citoyens qui poursuivent leur propre bonheur et les oblige à étudier dans le seul objectif d'intégrer une université prestigieuse. Il a souligné que les anciennes générations devraient reconnaître le fait que les jeunes ont une existence autonome. Les banderoles utilisées pour la campagne électorale commencent à être retirées dans la rue. Pour ce scrutin, 12 700 banderoles auraient été accrochées rien qu'à Séoul. Sans compter les nouvelles qui seront bientôt déployées par les candidats élus pour remercier les citoyens. Le problème, la plupart d'entre elles finissent à la poubelle. Si on alignait les banderoles utilisées dans la capitale sud-coréenne, leur longueur atteindrait 127 km. En effet, le problème des déchets que les élections suscitent ne date pas d'hier. Selon la commission électorale, 130 000 banderoles ont été fabriquées lors des élections régionales de 2018 et 30 000 pour les suffrages législatifs qui se sont tenus l'année dernière. Pourtant, parmi elles, seuls 33% et 24% ont été recyclés respectivement. Pour le recyclage et le traitement, 2 millions d'euros et 385 000 euros ont été dépensés. Ces toiles de bâche sont rarement recyclées parce qu'elles sont souvent salies et que le frais de nettoyage est non négociable. Pourtant, l'incinération des banderoles pose également problème. Ces toiles produites avec des fibres synthétiques émettent des produits cancérogènes et le dioxyde de carbone et des microplastiques lorsqu'elles sont brûlées. C'est pourquoi des voix s'élèvent pour mettre en place une réglementation pour réguler l'utilisation des accessoires de campagne électorale. Certains réclament d'opter pour des toiles respectueuses de l'environnement, mais ces dernières sont deux ou trois fois plus chères que celles conventionnelles et leur matière résiste moins bien aux intempéries. Selon le directeur de Public ID, entreprise fabriquant des banderoles écolo, le Tyvek, leur matériau principal, est inoffensif pour le corps humain et recyclable. Mais il est facilement abîmé et il est difficile d'y faire de la couture. Il est donc utilisé uniquement à l'intérieur. En dehors des banderoles, les cartes de visite distribuées aux passants et l'uniforme des membres de la campagne électorale sont également tous jetés à la poubelle une fois le scrutin terminé. S'y ajoutent les gants en plastique que les électeurs ont portés dans les bureaux de suffrage, dans le sillage du Covid-19. Pour l'élection d'hier, plus de 11 millions de paires de gants ont été préparées. Dans ce contexte, la municipalité de Séoul a élaboré un projet de recyclage. Il s'agit de mettre en relation chaque arrondissement avec une entreprise d'upcycling. Dans ce cadre, un des arrondissements compte distribuer des sacs de courses fabriqués avec les banderoles usagées. Certains prétendent que les partis politiques doivent contribuer à la réduction des banderoles et des prospectus, mais ce n'est pas une décision facile à prendre, d'autant que leur objectif est de gagner une rude compétition. D'après un responsable de l'association Green Korea, à l'ère où l'on reçoit les alertes du coronavirus par SMS, il faudrait se demander si on a vraiment besoin de tracts en papier et d'affiches en plastique. La municipalité de Séoul a récemment publié une directive sur les tâches des secrétaires. Un dispositif visant à empêcher la reproduction de l'affaire de harcèlement sexuel de l'ancien maire Park Won-soo, dont la victime était son ancienne secrétaire. Pourtant, ce document est pointé du doigt par certains en ce qu'il fait endosser la responsabilité principalement aux secrétaires. Regardons de plus près le texte. Tout d'abord, les secrétaires ne doivent pas contacter leur cadre pour des raisons personnelles, ni envoyer des textos, des photos et des emojis qui n'ont pas de lien avec le travail. Ensuite, il est interdit de l'aider à prendre son manteau et à retoucher son col ou sa cravate. Lors de la visite d'un client, il est déconseillé de mettre de l'ambiance ou de discuter de sa vie privée dans le but de détendre l'atmosphère. À propos des affaires privées du supérieur, les secrétaires doivent éviter de l'accompagner pour ses rendez-vous privés et de faire des réservations pour ses voyages personnels, y compris pour les membres de sa famille. Il est également interdit d'acheter ou de louer des objets et d'aller à la banque à sa place. Dans le cas où le supérieur donne un ordre injuste, il est recommandé d'exprimer son refus et si ça ne change rien, elles peuvent le déclarer aux inspecteurs. En ce qui concerne le recrutement du personnel, les employés des autres départements qui souhaitent travailler dans le bureau du secrétariat peuvent désormais se porter candidats. Selon Kim Jae-lyon, l'avocate de la victime de harcèlement sexuel de Park, parmi 6 pages des réglementations, seule une est destinée aux fonctionnaires et 5 pour les secrétaires. La directive devrait se concentrer plutôt sur le rôle des premiers. La municipalité de son côté s'est justifiée en disant qu'elle prévoyait de renseigner les cadres sur ce sujet dans le cadre de la formation sur la prévention du harcèlement sexuel et qu'elle s'efforcerait d'enraciner l'égalité des sexes dans la culture de l'organisation.
Toute la Corée du Sud à portée de clic sur world.kbs.co.kr/french sans les 3W devant.
Eh oui, vous êtes bien sur KBS World Radio pour votre magazine de société Séoul au jour le jour en compagnie de Franck Atlani ce jeudi 8 avril. La ville d'Uljin, dans la province de Gyeongsang du Nord, abrite la plus grande forêt primaire de pin rouge coréen. Appelée pin gumkang, en Corée du Sud, ces arbres sont les plus grands et les plus résistants parmi les pins et représentent une espèce à l'origine des pins dans le pays. Leurs bois sont de très haute qualité et ont été utilisés pour restaurer des patrimoines culturels comme le palais de Gyeongbokgung et la porte de Namdaemun. Cette forêt a été désignée comme une zone de protection depuis le royaume de Joseon. À l'époque, il servait de matériaux pour des palais royaux ou des cercueils pour des rois. Mais à présent, il est interdit de les déboiser à des fins personnelles. Pourtant, le flétrissement massif de ces pins rouges est observé de plus en plus autour des zones de haute montagne. Ce phénomène est apparu en 2010 et s'est répandu jusqu'à Samchok, dans la province de Gangwon, et à Bonghwa, dans la province de Gyeongsang du Nord. Selon une étude du service forestier de Corée, 10 à 50 arbres se sont flétris en même temps. L'établissement a examiné leur échantillon pour savoir s'ils ont attrapé la maladie du nématode du pin, considéré comme le sida des pins. Cependant, aucun arbre n'a été contaminé. Mais alors, quelle est la raison de la mort de ces pins ? Les habitants autochtones d'Uljin estiment que c'est le manque de neige qui tue ces arbres. Selon un riverain de 86 ans, quand il était jeune, la neige s'accumulait jusqu'à 120 cm. Mais ces jours-ci, il neige que 10 à 15 cm. La neige fondue doit fournir de l'eau dans le sous-sol. Mais comme ce n'est pas le cas à cause du climat radouci, les pins en haut des montagnes souffrent de pénurie d'eau et finissent par mourir. Les experts attribuent la raison également au réchauffement climatique. Avec l'accroissement de la température en hiver, les arbres respirent davantage et consomment plus de glucides. Toutefois, ils ont accès à moins d'eau à cause de la sécheresse. Les pins qui se trouvent dans les zones en haute altitude sont vulnérables à la pénurie d'eau et plus sensibles au climat. Selon Sojae Chol, un responsable de l'association Green Korea, contrairement aux feuillus qui passent l'hiver en hibernant, les conifères ont besoin d'énergie tout au long de l'année. Et avec le rythme actuel du changement climatique, la forêt de conifères sera menacée de disparition. D'après une étude de l'Institut national des sciences forestières, 18% des pins rouges coréens de la forêt d'Uljin risquent de se flétrir. So a souligné que les arbres du genre Pinus, comme le pin, représentaient 25% des réserves forestières de la Corée du Sud et qu'il était temps d'élaborer des mesures pour l'adaptation des conifères au réchauffement planétaire. L'épidémie de Covid-19 a changé le paysage des programmes à la télé. Les émissions de divertissement et de musique n'ont plus de spectateurs sur place et les animateurs et les invités sont séparés par des parois transparentes. En revanche, les séries télévisées semblaient longtemps ignorer la pandémie virale. Selon un scénariste, on dit que les feuilletons doivent refléter la réalité. Mais s'ils montrent vraiment le monde sombre, alors que la réalité est déjà dure à vivre, cela rendra les spectateurs plus déprimés. Or désormais, le milieu des séries télévisées commence petit à petit à décrire la situation épidémique. Dans Vincenzo, le coronavirus constitue un facteur qui influence le récit. Dans l'épisode 7, un groupe d'hommes qui allaient affronter leur ennemi change brusquement leur plan, parce qu'un de ces hommes a reçu un appel lui apprenant qu'il était en contact étroit avec une personne contaminée. Ils ont donc changé de direction et se sont rendus au centre de santé publique. Le héros Vincenzo, quant à lui, se plaint d'une pizza fade en disant que le basilic et le fromage sont en distanciation sociale et que les tomates sont confinées chez elles. L'œuvre Revolutionary Sister, ou les sœurs révolutionnaires en français, montre la vie quotidienne à l'ère du Covid-19 de manière réaliste. La plupart des personnages portent le masque tout le temps. Dans le premier épisode, les gens font une longue queue devant la pharmacie pour acheter des masques, rappelant la situation d'il y a un an. La première fille, Gwang Nam, pulvérise du produit désinfectant pour son mari qui vient de rentrer à la maison, tandis que la deuxième fille, Gwang Shik, travaille dans un établissement public en mettant tout le temps son masque. En effet, ce changement représente un défi plutôt difficile pour les acteurs, car les masques cachent la moitié de leur visage. Hong Eun-hee, actrice de Revolutionary Sister, a confié au journal Hangul qu'elle était très inquiète de devoir jouer sous un masque. Elle a donc fait beaucoup d'exercices en regardant le miroir afin d'exprimer plus d'émotions seulement avec les yeux. Elle s'est aussi efforcée d'articuler mieux pour que ses paroles s'entendent bien malgré le masque. Les spectateurs sont nombreux à trouver intéressant ce défi d'intégrer la réalité. Pourtant, étant donné que dans certaines scènes, les acteurs baissent leur masque pour mieux faire comprendre leurs paroles, certains affirment qu'il vaut mieux l'enlever totalement afin que de le mettre à moitié. Récemment, un nouveau drama est en préparation sur le sujet des jeunes de 19 ans dont la première année à l'université est gâchée à cause du Covid-19. Chae Yong-hak, sud-coréenne de 82 ans, lit des contes de fées aux enfants depuis près de 20 ans. Après avoir travaillé comme enseignante pendant plus de 30 ans, elle passe sa vie encore avec les enfants à travers des activités bénévoles. Lorsqu'elle travaillait, elle s'est plutôt concentrée pour aider les élèves à obtenir une meilleure note à l'examen. Pourtant, grâce aux consultations qu'elle a faites pour les conseillers sur l'orientation professionnelle, elle s'est rendue compte que chaque élève a une personnalité et des atouts différents, d'où l'envie de continuer à venir en aide aux enfants. Chae est admiratrice des contes merveilleux. Quand les enfants lisent certaines histoires, ils pensent naturellement qu'ils doivent vivre honnêtement, même si on ne leur apprend pas. Elle souhaite également partager le sentiment qu'elle a eu lorsque sa grand-mère lui racontait de vieilles histoires en la tenant sur ses genoux. La retraitée fait partie de Tonghua Baligi, l'association bénévole qui a pour objectif de donner de l'espoir et de faire rêver les enfants à travers les livres. Ainsi, un groupe de 6 à 10 membres lisent de petites histoires aux enfants dans les écoles maternelles et primaires. Avant l'épidémie virale, ils ont également donné des spectacles de marionnettes et joué eux-mêmes du théâtre. Comme cela fait presque 20 ans qu'elle mène cette activité, certains enfants à qui elle a raconté des récits sont déjà devenus étudiants. Elle se sent fière lorsque ces jeunes lui disent bonjour quand ils la croisent dans la rue. Depuis 3 ans, elle fréquente également le centre du bien-être social pour aider les personnes âgées illettrées. Celles-ci lui confient leur tristesse de ne pas avoir eu l'occasion d'apprendre le Hangul, l'alphabet coréen. Et Che leur apprend l'écriture en utilisant des contes de fées intéressants. Après avoir pris sa retraite, l'octogénaire a obtenu divers certificats sur la consultation, l'éducation littéraire, la narration de contes de fées et l'art-thérapie, en vue de mener à bien ses activités bénévoles. Selon elle, quand on a plus de 80 ans, il est difficile de trouver quelqu'un ou un endroit qui a besoin de nous. En apparence, elle travaille pour le bien des autres, mais en réalité, c'est elle qui prend le plus de plaisir dans cette activité. La Sud-Coréenne explique que si elle s'y investit avec autant de passion, c'est pour se sentir soi-même. Elle a passé 50 ans avec les enfants, mais c'est seulement maintenant qu'elle arrive à voir que chaque enfant grandit et apprend une vitesse différente. Désormais, elle sait quelle vitesse adopter pour eux et elle sait surtout attendre.
Bonjour chers auditeurs et auditrices, très heureux de vous retrouver pour Bon Plan de Sortie, votre émission du jeudi qui vous fait découvrir les événements les plus captivants du pays du matin clair, le tout en 5 minutes chrono. Au programme cette semaine, l'exposition d'un jeune illustrateur français, une nouvelle génération de peintres sud-coréens à l'honneur dans le sud du pays et le récital d'une violoncelliste. Mais tout d'abord, une exposition sur un produit d'artisanat coréen assez méconnu des étrangers, le hongi, un potentaire cuit. Bon plan de sortie, c'est parti. Le Jungang Art Center à Séoul accueille jusqu'au 30 avril une exposition du potier traditionnel coréen Baeyosop, spécialisé dans la fabrication des hongi. Les hongi sont des potentères cuites traditionnelles qu'on utilise comme vaisselle ou récipient de conservation alimentaire. Né en 1926, Bae a commencé en 1942 à fabriquer des hongi, une tradition qui se transmet au sein de sa famille depuis 7 générations. En 2002, il a été nommé détenteur de la technique de fabrication des hongi, qui constitue le patrimoine culturel immatériel numéro 30 de la ville de Séoul. Cette exposition est l'occasion de découvrir non seulement les créations de Bae, mais aussi des hongi et des œuvres en hanji, le papier traditionnel coréen réalisé par des amateurs dans le cadre d'un programme d'atelier mis en place par le parc thématique des hongi dans le quartier de Jungnang-gu à Séoul. L'Albus Gallery, dans le quartier de Hannam-dong à Séoul, propose jusqu'au 30 mai une exposition du peintre et illustrateur français Jean Julien, intitulée Hello Again. Cet événement présente une trentaine de peintures réalisées par l'artiste durant la pandémie de Covid-19, autour des thèmes de la vie quotidienne comme la promenade, la mer ou encore le surf. Né en 1983 à Cholet, en France, Jean Julien est diplômé du Central St. Mary's College of Arts and Design et du Royal College of Art de Londres. Connu pour son univers artistique teinté d'humour et d'esprit, il exerce ses talents sous toutes les formes, de la peinture à l'illustration, en passant par la vidéo ou les installations. Il a notamment collaboré avec le Centre Pompidou, le quotidien américain New York Times ou encore le journal britannique The Guardian. À noter que cette exposition est accessible sur réservation via le portail Naver, mais il est également possible d'acheter son billet sur place sous réserve de disponibilité. Le musée d'art de Gyeongnam, situé à Changwon, dans la province de Gyeongsang du Sud, dans le sud-est du pays, présente une exposition intitulée N Artist 2021, Working with Uncertainties. N Artist, c'est un projet d'exposition lancé par ce musée en 2016, avec pour but de faire découvrir les nouveaux talents artistiques de cette province. La lettre N, dans la dénomination du festival, a une signification multiple, renvoyant à la fois au bon anglais New, No et Next. L'édition 2021 met à l'honneur les œuvres de 4 jeunes artistes spécialisés dans la peinture ou les installations, Lu Kim, Om Jang-won, Lee Sang-hyuk et Choi Sung-jun. Alors rendez-vous jusqu'au 6 juin si vous êtes de passage dans la région. La violoncelliste Oh Ah-mi se produira en récital le 11 avril au Gemmo Art Hall Yonsei à Séoul. Accompagnée par le pianiste Go Uri, la musicienne interprétera la sonate pour violoncelle numéro 1 en mi mineur, opus 38 de Brahms, la sonate pour violoncelle 3 en la majeur, opus 69 de Beethoven, ainsi que les variations de Paganini sur un thème de l'opéra Moïse en Égypte de Rossini. Née en 1983, Oh Ah-mi a étudié la violoncelle au conservatoire de Gennevilliers en France, avant de revenir en Corée du Sud et d'obtenir sa maîtrise à l'université pour femmes Iwa, puis son doctorat à l'université Dangguk à Séoul. Aujourd'hui, tout en enseignant à la Graduate School of Culture, Arts and Design de ce même établissement, l'artiste se produit régulièrement sur scène et fait aussi des apparitions télévisées, rendant son instrument plus familier au public. Cette édition de Bon Plan de Sortie est maintenant terminée. Nous vous rappelons qu'en raison de l'épidémie de coronavirus, il est recommandé de bien vérifier si les événements auxquels vous souhaitez vous rendre ont toujours lieu. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et vous donne rendez-vous jeudi prochain.
C'est la fin de notre émission Séoul au jour le jour du jeudi. C'était Franck Atlani au micro, IGN à la rédaction, avec Yoon Oumi à la réalisation. Merci de nous avoir suivis, je vous souhaite une très belle journée.